Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de l'analyse de Geek. Dans cet épisode, on va parler de The Boys, autant les comics que la série. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Jim.
Salut.
Donc, aujourd'hui, on parle de The Boys, une série qui, selon nous deux, a vraiment marqué autant l'imaginaire des super-héros que le monde de la télé par sa brutalité franchise et de comment mettre des problèmes sociétaires de l'avant. On voulait commencer la discussion d'aujourd'hui en parlant d'un point qui est important pour nous, c'est de faire comprendre que The Boys, c'est une satire.
Ouais. Tu veux-tu que j'élabore un peu là-dessus?
Ouais, je te lance là.
Souvent, mettons, on a peu d'exemples de satire, mettons, dans les super-héros, je te dirais, à la télé. Souvent, mettons, on va avoir le film Marvel très standard, l'ordinaire, là. Gars a des pouvoirs, soudainement gagne en utilisant le pouvoir de l'amitié et du dépassement de soi-même, c'est le traditionnel super-héros.
De l'unité.
C'est... Puis là, après ça, t'as eu depuis un bout un peu les films anti-héros, où est-ce que le héros de l'histoire, ben oui, c'est un héros, mais c'est un fucker. Un peu comme Deadpool. T'sais, Deadpool n'est pas une satire. Deadpool, c'est juste...
Un anti-héros.
Il y a juste pas de valeur, pas bien grave si ça finit pas bien.
Oui, il y en a, mais sont marginales.
Ouais, puis sont légères. Tu sais, sauver sa blonde, c'est pas tant une valeur.
Comme un... Normal.
Tout le monde à la base. C'est pas... Anyway. Fait que ça, il y a ça. Là, on est vraiment dans la satire. Donc, impliquant le fait que on doit rire et se moquer et de tourner un peu à l'envers une situation standard. Donc c'est un peu ça que c'est ça que c'est les boys dans le fond, où est-ce que on va avoir tous les clichés un peu des super-héros, puis on va vraiment, au lieu de montrer leur meilleur côté, on va vraiment montrer leur moins bon côté. On va tout prendre qu'est-ce qu'il y a de positif dans les super-héros, puis on va vraiment focusser sur les effets négatifs, sur tous les défauts qu'ils peuvent avoir, puis aussi sur le concept lui-même. Tu sais, un super-héros qui arrive puis qui il débarque, il fait un super-hero landing puis il sauve la situation, ben dans la vraie vie, ça... Un super-héros landing, c'est peut-être pas une bonne idée, tu sais. En tout cas...
Détruit la route, 3-4 chars qui volent dans des
maisons. Tu atterris sur quelqu'un qui... Super-héros landing, ça fait un shockwave, tout le monde en revole. C'est pas... En tout cas... Fait que c'est un peu le concept de la satire. Il y en a pas beaucoup, je te dirais, à la télé. Il y en a beaucoup dans... Bon, il y a beaucoup des pièces de théâtre, c'est ça, mais... Des séries de super-héros satiriques, il y en a peu. Puis je suis content que les boys, ce soit une superbe satire de super-héros. C'est tellement délectable.
Oui, puis en plus d'être une satire, parce qu'une satire a souvent un grand ton comique quand même à l'heure de la satire, vu qu'ils ont mis un gros élément de dystopie dans The Boys, c'est là qu'il vient chercher, selon moi, l'intérêt, c'est qu'il y a un côté comique. Il y a une scène, tu vas avoir un petit sourire, puis après ça, l'autre scène... Ça va tellement gore, puis là, tu vas encore avoir le sourire de la semaine, comme de la scène d'avant, puis vivre avec ces émotions-là super contradictoires une après les autres.
Les malaises aussi, les frettes. Tu sais, mettons, moi, je suis un super-héros, puis soudainement, j'ai, mettons, une demoiselle en détresse dans les bras ou n'importe qui, puis là, soudainement, je suis distrait 30 secondes, puis je l'échappe, puis je suis comme, ah, shit. T'sais, dans la vraie vie, c'est des choses qui arriveraient. T'sais.
Ouais, mais pas dans les films de Marvel.
Non, ça arrive moins.
Ça ferait, mais on t'enlève ton badge Avenger. Comment ça? Je l'ai échappé. C'est quoi, t'es tombé dans l'alcoolisme? Non, je l'ai juste littéralement échappé, le caisse.
À débattait. À péter, j'ai pas aimé ça. J'ai fait le saut.
J'ai fait le saut, je l'ai échappé.
Ouais.
Aussi, ce qui est le fun de The Boys, c'est que tous les super pouvoirs, on voit l'effet que c'est un peu censé avoir dans la physique. T'sais, tu peux pas... Il y a beaucoup de choses qui est faites par des super-héros qui nécessitent un contrôle, comme une précision qui serait pratiquement impossible à avoir de leur pouvoir, parce que si tu t'arrives, mettons, à 1000 km/h puis t'essaies de bloquer un char, ben le char, il se désintègre.
Ouais, c'est vraiment dans un univers où est-ce que... Ben, en fait, dans notre monde, on est chanceux, nous autres, on est chanceux puis on n'est pas chanceux, mais on a la physique qui nous dit ce qu'on peut faire puis ce qu'on peut pas faire ou moins bien faire. Dans un monde où est-ce que moi, mettons, je suis capable de shooter du laser de mes yeux, puis je suis capable de démolir un building si j'éternue, C'est un monde qui est fait en carton, là. Les accidents que ça va produire, les désavantages qu'il va avoir, c'est sûr et certain que c'est incalculable, là. Puis je trouve que c'est une affaire qui amène beaucoup dans le Boys, puis c'est une satire qui amène juste. Ben d'abord, on peut tout de suite commencer en disant moi j'ai pas tout lu les BD. C'est quelque chose que je suis dans le processus un peu de. Je viens de les commencer, mais je me suis tapé les deux premiers épisodes de les deux premières saisons de la série au moins. Là, ça a été ma troisième fois solide. Je pense qu'on peut tout commencer par dire moi je suis un. La série et la BD sont vraiment pas pareilles.
Non,
je pense exactement. Que peux-tu donner mettons des exemples un peu là.
Ouais, effectivement. Entre autres, dans la BD, un des éléments que je trouve qui est vraiment important, qui est différent de la série, c'est que le Compound V, l'élément comme la drogue qui rend les enfants super-héros, est vraiment moins caché, vraiment moins un élément de mystère. Puis comme c'est plus open, il y a vraiment plus de super-héros. Dans les comics, tu vas avoir des groupes comme les G-Men, qui sont les satyres des X-Men. Fait que tu vas finir par retrouver quasiment tous les groupes qui existent dans l'univers des super-héros, puis qui sont tous ridiculisés un après l'autre. Contrairement à The Seven, dans le show, qui sont juste une parodie à The Justice League / Avenger, mais vraiment plus Justice League. Dans le cas de Homelander, c'est une satire de Superman.
Ouais.
Aussi, ce que ça fait qu'il y a vraiment plus de super-héros, dans cet univers-là, ça l'enlève l'aspect mystère du show. Tu sais, il y a un gros aspect de recherche aussi que les The Boys dans le show, c'est un peu les détectives. Ils essaient d'avoir beaucoup d'informations, de la récolter puis de l'amasser. Mais dans le comic, Billy Butcher, il est vraiment bon pour manipuler les gens puis avoir des gens qui sont déjà en dessous de lui. Puis il y a beaucoup de choses dans le comic que tu vois pas se dérouler. Puis Billy a juste l'information. Comme dans les comics, ils ont des caméras partout dans les chambres de Seven très rapidement. Tu apprends que Billy a toujours eu des caméras là parce que dès que Maeve est rentrée dans Seven, c'était déjà son contact. Il y a moins, comme je dis, l'aspect détective, ça fait plus l'aspect sur « Regardez, on va vous présenter 120 super-héros, là. Puis sur les 120, il y en a 90 de Chili. Puis les 30 qui sont good sont vraiment pas bons. »
Ouais.
T'sais, si t'as un bon cœur, t'es pas un bon... comme t'as pas des bons pouvoirs, t'as une maladie mentale, t'es un marginal. Si t'es... Ouais. Dans les groupes en haut, t'es automatiquement une marque.
Ouais. Puis, en tout cas, juste pour faire parenthèse là-dessus, dans la BD, il y a un super-héros qui s'appelle Swingwing, qui a vraiment un gros arc. C'est super important. Puis, on va revenir plus tard, là, probablement. Mais c'est vraiment relativement une bonne personne au début. Puis, il y a une belle transition de personnage là, qui se fait là, par rapport au fait que, ben. Bon, il est pas incroyable, il est marketé d'une certaine façon, puis après ça, ben, il est plus là après dans pas long, là. Tu sais, en tout cas, c'est vraiment, c'est ça, c'est tout.
Parce que dans le show, on le voit un peu avec A-Train, que sont remplaçables, puis que dans le background, on a vu, il y en a un peu d'autres, des super-héros, mais dans le comic, comme il y en a à l'infini, là,
oh, t'as
le droit à deux, mettons, une erreur, si t'es capable d'être couvert par les spécialistes de la communication, t'es correct, mais si ton erreur est pas capable d'être couverte, t'es out, t'es rendu C-team, t'es caché dans le placard, t'as plus d'argent, puis arrange tout seul avec tes pouvoirs. Puis si tes pouvoirs sont dangereux pour le monde autour de toi, ben tant mieux, puis arrange tout ça.
Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, c'est le fun de voir vraiment les deux directions, la série puis la BD. Moi, je pense que si vous avez, admettons, regarder un des deux, je vous conseille en premier d'aller voir la série. Puis si vous êtes vraiment fan après ça, d'aller vraiment voir la BD. La BD, c'est des créateurs plus indépendants, là. Fait que si vous voulez encourager, pas, tu sais, mettons, dire « Moi, je veux pas donner mon argent à Disney ou à Marvel ou whatever », ben, c'est des indépendants. Ils n'ont pas rapport avec ça. Fait que si tu veux aller encourager cette écriture-là, il n'y a pas de problème. Mais la série, écoute, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Fait que, tu veux-tu qu'on commence à parler un peu de
la série, maintenant? Avec peut-être le team principal, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ou même pour ceux qui l'ont pu, juste expliquer qu'est-ce qu'on pense qu'ils sont comme satyres, puis c'est quoi leur importance dans le show.
Ouais, vas-y.
Mais tu sais, j'avais parlé un peu au début, Homelander, c'est la parodie de Superman, c'est un peu de démontrer que si quelqu'un a pratiquement des pouvoirs divins inarrêtables, qui est physiquement indestructible, qui peut tirer des lasers par ses yeux, qui peut aller plus vite que l'éclair, que tous ces pouvoirs-là réunis sous une seule personne. Dans le cas de Superman, c'est bien, mais tu sais, Lex Luthor, il disait toujours que si à un moment donné Superman il vire dark, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Homelander.
Ouais. Point à noter aussi qui est le fun, c'est que dans la série puis dans les BD aussi, tu sais, ils ont pas de super weakness.
Non, c'est ça.
Vraiment. Fait que, tu sais, t'as, mettons, Superman, mais t'as pas de kryptonite, mettons, sa planète, là. T'es comme, ah, oh God, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu peux rien faire. Puis c'est un petit peu ça, le jeu qui joue, parce que, au fur et à mesure que tu rencontres les personnages, tu réalises que leur principal point faible, surtout dans la série, c'est les mêmes points faibles que n'importe qui a aujourd'hui. C'est la perception du public, comment le public te perçoit, les gens autour de toi aussi, tu sais, ils vont beaucoup utiliser les rapprochements des super-héros, tu sais, mettons, si le super-héros, comme mettons H-Man dans la série, il y a une blonde, sa blonde, elle a déjà été à la télé, ça a déjà été un petit, elle était de passage, mettons, là en ce moment, elle est plus à la télé, mais c'est un C-list hero, mais ils vont beaucoup utiliser, mettons, le fait. Ils vont beaucoup attaquer puis essayer de faire chanter sa blonde pour pouvoir attaquer justement A-Train. Ça, c'est un weakness que le monde ordinaire a. Fait qu'ils ont tous les super pouvoirs qu'on n'a pas, mais ils ont tous les weaknesses qu'on a en tant que personne. T'sais. Fait que ça aussi, c'est le fun par rapport à ça, parce que là, t'as plus juste besoin d'avoir de la kryptonite puis juste faire comme ah! Voici la carte que je cachais dans mon pantalon qui est
kryptonique. Il y a aussi que dans les univers de super-héros classiques, tous les super-héros sont trained à réagir à toutes les situations. Comme s'il y avait été des professionnels, pompiers, policiers, soldats, toute la gang. Il y en a qui l'ont été, puis c'est pour ça qu'ils sont vraiment efficaces, mais il y en a qui, des fois, qui n'ont aucun training militaire, puis soudainement, ça a vraiment tout sauvé les situations. Cool. Puis ce que j'aime de The Boys, c'est qu'on voit clairement que quand ils sont envoyés dans une situation, ils savent pas quoi faire. Parce que t'as pas à avoir tous les pouvoirs du monde, tu sais pas quoi faire. La physique, elle sera pas de ton bord, elle va pas, elle. Comme on disait, tu sais, je veux revenir à une scène là, que je la trouve super importante, c'est la scène de l'avion.
Ouais.
On va expliquer la version dans le show puis dans les BD.
Ok, tu veux-tu expliquer dans votre clip?
On va commencer avec le. Je vais te laisser faire le show, je vais faire la BD ou le contraire?
Ouais, ok. Ben, je peux faire le show, y a pas de problème. Faut comprendre, premièrement, que les super-héros dans la série. Ils appartiennent à une corporation qui s'appelle VOGT, OK, V-O-U-G-H-T. Puis cette corporation là, elle utilise ses super-héros. Imagine mettons Disney, OK, Disney, ils ont les films, ils ont la merch, ils ont toutes les bébelles, toutes les jouets, toutes les ça. Mais en plus de ça, si Disney avait les super-héros eux-mêmes. Fait que les super-héros appartiennent à VOGT. Fait que eux autres, ils utilisent les super-héros comme des marchandises. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettons les louer à des villes pour qu'ils aient mettons l'exclusivité sur cette ville-là. Fait que là le super-héros il est juste dans cette ville-là. Ils vont aussi, il y a tout un système de vraiment de pour vraiment regarder où est-ce qu'ils sont les crimes, qui va les faire, qui va les commettre un peu. C'est un gros système de surveillance là où est-ce que tout ce qu'ils ont à faire, c'est qu'il envoie un peu comme un horaire, il l'envoie au super-héros, puis il va dire, bon, ben regarde, vers telle heure, il risque d'avoir, mettons, une banque qui va se faire voler, tu vas être là pour empêcher ces gens-là de faire ça. Fait qu'ils ont comme un itinéraire de qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, comment qu'il faut qu'ils fassent. Puis à un moment donné, dans la série, le plus fort, puis ce que la corporation, elle essaie d'amener, c'est que là, bon, ben là, ils ont littéralement un peu le rôle de la police, ils ont la merch, ils ont les films, ils ont à peu près tout ce qu'ils peuvent marketer. La dernière frontière qu'il leur reste à faire, c'est de prendre les super-héros puis de les envoyer à la guerre. De dire, le gouvernement américain va utiliser les super-héros pour faire la guerre. Puis on le sait, là, je veux dire, tu vis sur une autre planète pour comprendre que le gouvernement américain fait la guerre souvent, tu sais. Fait que c'est pas fou que ça pourrait être quelque chose s'il y avait vraiment des super-héros qui se discuteraient. Fait que là, ils cherchent une occasion pour justement en faire pousser cette loi-là pour envoyer les super-héros à la guerre. Puis, à un moment donné, il y a un avion qui se fait hijack. On comprend que là, c'est une satire un peu du 9-11, là, l'attaque terroriste qu'il y a eu sur le World Trade Center. Puis, les super-héros réussissent à avoir l'information avant, mettons, l'armée, il faut qu'il aille faire quelque chose. Fait que là, il envoie justement Homelander dans la série. Il envoie Homelander, qui est le Superman par excellence, avec Queen Maeve, qui est Wonder Woman. Bon, c'est Wonder Woman, qui est intéressant parce que des fois Wonder Woman elle vole, des fois elle vole pas. Dans la série, c'est une Wonder Woman qui ne vole pas. Donc c'est juste une chicks qui peut juste
te très fort physiquement, oh, très résistante,
agile puis tout, puis Wonder Woman. Anyway. Fait que réussissent à aller vers l'avion, rentrent dans l'avion, pète la gueule au terroriste, ça prend 30 secondes. Puis Homelander, en rentrant dans la cabine du pilote, t'as juste comme le dernier terroriste qui a un otage, puis là, il laser le terroriste, qui fait qu'il tire le dernier pilote. Puis là, son laser passe à travers le gars, ce qui fait que ça brise la console. Fait que là, les deux, ils se regardent, font comme, bon, ben, t'es-tu capable de faire voler un avion? Fait qu'il fait comme, ben non, je vole, pourquoi je volerais un avion? Fait que là, les deux, ils se regardent, font comme, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, Homelander, il fait comme, ben, on s'en va, man, je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire? Fait que là, même avec un, oui, mais là, les gens, qu'est-ce qu'on va faire pour les gens? Il dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il dit, ben, je sais pas, sors de l'avion, puis genre, pousse-la, va l'arrêter. Il dit, hey, c'est un avion, je suis invincible, je vais passer bord en bord de l'avion, je vais en briser en quatre. Je veux dire, ça marche pas comme ça, là.
Quand on dit que la physique était pas de leur bord, puis c'est un monde en carton, tu sais, si t'arrives de pleine vitesse devant un avion, même solide devant un avion qui est à pleine vitesse,
exactement.
C'est un point compressé, il va juste le traverser.
Un avion, c'est fait en aluminium. C'est genre le matériau le plus léger qui pouvait faire l'avion pour qu'elle vole puis qu'elle consomme le moins possible de carburant. Elle est pas faite solide, là, cet avion-là. Écoute. Fait que là, ils commencent à capoter parce que là, les gens dans l'avion commencent à réaliser qu'ils vont s'en aller. T'sais. Puis là, comme, ben là, on pensait que vous étiez venus pour nous sauver. Fait que là, ils commencent à capoter. Là, Queen Maeve capote. Elle essaye de dire, OK, mais juste les enfants, juste, on part juste avec ces deux filles-là. Puis il est juste comme, non! Parce que si on part avec ces enfants-là, ben là, ils vont pouvoir dire à tout le monde comment qu'on a juste réussi à sauver eux autres, qu'on a crissé tout le monde, qu'on a laissé tout le monde dans le plane crash. Non. On s'en va, on fait comme si on n'avait jamais été là, puis la compagnie va s'occuper d'enterrer les preuves si jamais il y en a. Fuck off. Puis c'est un peu ce côté-là que si jamais, mettons, ça arrivait pour vrai, faut vraiment que tu aies un plan là. Même je te dirais qu'aujourd'hui là, le World Trade Center là, à part shooter les avions dans les airs, il n'y a pas de plan. C'est pas comme si vous pouvez les arrêter. Donc, ça c'est dans la série. Tu veux-tu expliquer maintenant
ce qui se passe? Juste avant, tu sais, ce qui était important dans cette scène là, c'est de démontrer que l'apparence est tellement importante que mieux vaut sacrifier tout le monde qu'en sauver juste quatre qui pourraient chialer.
Ouais. L'image, c'est encore une fois, c'est leur weakness pour eux, là. C'est leur image, leur marketing.
Ouais, la différence avec les comics majeurs, c'est que quand Homelander arrive avec sa team, dans le fond, contrairement à d'arriver avec juste Maeve, il arrive avec les Seven au complet, les Seven qui étaient là à l'époque. Puis quand il rentre avec tout le monde, ils sont une couple de volants qui traînent les non-volants. Quand Homelander arrache la porte, évidemment, tous ceux qui sont pas attachés ont juste volé de l'avion, tu sais. Puis là, t'as juste les super-héros qui regardent le monde voler, puis qu'eux sont capables de rester dans le torrent de vent. Ils font juste comme, oh, on n'avait pas pensé à ça. Puis après ça, comme dans le show, tu sais, les terroristes sont take care of en 5 secondes. Sauf qu'après ça, ils se regardent, tu sais, même chose. Homelander détruit la console, la vitre, puis tu sais, l'avion commence à crash. Puis ils se regardent, c'est comme, what's the plan? Puis là, tu sais, t'as Homelander qui se retourne vers MF, qui est comme, c'est quoi le plan? Puis le mec est comme, ben, c'est toi le leader. C'est toi qui es censé avoir le plan, non? Puis là, les deux, ils se regardent, puis hoche comme, non, on est parti, pas de plan, guys. Puis là, après ça, ils sont comme, ben, si on est parti, pas de plan, ben, on s'en va. Fait que c'est au-delà de l'apparence, c'est juste, oh, dans le fond, on y avait pas pensé, mais on se reprendra prochaine fois.
Hein? Écoute, ça va tellement mal, ça va encore pire dans les BD, parce qu'à un moment donné, là, ils débarquent l'avion. Là, ils réalisent que l'avion est en trajectoire vers des affaires. Là. Fait que là,
comme Lando, il fait juste sortir, puis il fait « Bon, ben, il m'a foncé dedans, m'a pété en deux. »
Il m'a pété comme ça. Sauf que le gars, il avait oublié que sur son dos, il y avait Marathon Man, qui était le speedster de l'équipe. Fait que là, il part bord en bord de l'avion. Ouais, il part bord en bord de l'avion. Qu'est-ce qui se passe? Marathon Man crève parce qu'il a passé bord en bord. Fait que là,
il est pas assez solide pour ça.
Il est pas solide. Fait que c'est juste un nasty train wreck. Finalement, dans la BD, l'avion a crash sur le Brooklyn Bridge. Tout le monde est mort. Il y a des super-héros de mort. L'avion est pété en tout cas, c'est le bordel. C'est un peu là qu'on commence à comprendre. Tu sais, dans la vie, là, on a des policiers. On a des pompiers. On a des ambulanciers. On a des médecins qui se spécialisent dans à peu près toutes les sphères possibles de l'anatomie, justement parce que c'est compliqué les choses. Tu peux pas juste avoir un gars qui débarque puis qu'il est en parfait contrôle de la situation puis il a toutes les connaissances nécessaires pour ça marche fuck all. Puis dans la série, puis je pense c'est un peu moins pire dans la BD, mais dans la série, c'est vraiment juste, c'est comme si c'était juste des acteurs qui étaient capables de juste tuer tout le monde. C'est vraiment juste ça. Ils n'ont aucune connaissance. Ils ont pas de training, ils ont pas rien. Ils sont juste, ils se font dire, va-t'en là, puis fais ça. Puis c'est pas mal juste ça qu'ils peuvent faire.
Parce que souvent, ce qu'on apprend, c'est que Vought les prend très jeunes dans leur parcours, surtout s'ils ont des pouvoirs intéressants. Ils les isolent de leur famille. Puis tout ce qu'ils font, c'est être un personnage public. Ils s'entraînent même pas à être des soldats.
Ouais.
La majorité d'eux autres savent pas se battre pour vrai, là. Ils sont juste vraiment forts.
Ouais. Il y a une minorité aussi qui commence, où est-ce que c'est peut-être un petit peu plus dans les BD, mais tu le vois plus dans le personnage de Starlight dans la série, qui est comme le 10% des super-héros que elle est vraiment good dans le fond. Là. Elle a le début vraiment quand même noble. Elle vient d'un genre de Midwest américain où est-ce que c'est très Bible believer, là, c'est Jésus qui est le fun puis tout le monde est cool. Fait qu'elle est un peu dans cette optique-là qu'elle est très bon, elle est chastée pure, elle est cute, elle est blonde. Le soir, elle a un vieux scanner de police, elle scanne les pour voir s'il n'y a pas genre un vol de quelque chose en quelque part qu'elle puisse essayer d'intervenir un peu. C'est vraiment. Il y a un petit peu de tout, mais tant que la compagnie est pas impliquée là-dedans, c'est un peu mishmash. Mais la minute que t'es dans la compagnie, là, t'es une marchandise, là, c'est très très clair. Là. La mais première saison, c'est que ça.
Avant qu'elle soit dans les Seven, elle était dans un groupe qui était un peu une parodie des Young Avengers.
Ouais.
Puis Vought leur avait dit clairement comme quand vous êtes sur les lieux d'une catastrophe, vous ne devez rien faire. Parce que si vous échappez quelqu'un, si en tassant un mur, vous blessez quelqu'un, vous nous nuisez monétairement. Fait que votre job, c'est juste d'être là. C'est sûr que si tu passes toute ton adolescence à te trainer pour être un super-héros, mais que tu fais actually rien, quand t'arrives dans les Seven, tu sais rien faire.
Ouais. Ouais, écoute.
Je pense que c'est un bel exemple là-dessus aussi, c'est l'Aquaman, là, la parodie d'Aquaman.
The Deep.
Ouais, The Deep, là. Incapable d'utiliser ses pouvoirs comme du monde, ce dude-là.
Il faut juste donner des crimes tout water adjacent, là. Il est tout le temps, il dit, je suis tout le temps dans le port. Pourquoi je suis tout le temps dans le port? C'est des pouvoirs d'eau, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas comme si pour t'aider à être un garde côtier, il y a pas de visibilité. Fait que ça sert à rien qu'on t'envoie faire ça.
Alors, team, il y a aussi A-Train qu'on a parlé un peu, qui était le remplaçant de Marathon Man. Eux, c'est la parodie d'un speedster. Ce que je trouve bien, c'est qu'il démontre que si tu vas à cette vitesse-là, le champ de force autour de toi que ça crée, ça détruit des choses. Ça, dans le show, c'est très bien montré dans l'épisode 1.
C'est quelque chose qu'on sait bien maintenant avec la physique, hein, c'est que quand ça va vite, ça frappe bien plus fort, tu sais. Fait que, en fait, la série commence où est-ce que... Puis ça commence un petit peu ça aussi dans la BD. C'est vraiment le point culminant où est-ce que t'as le personnage principal, Huey, qui est avec sa copine. Moi, je vais commencer par dire, mettons, comment ça se passe dans la série, puis après ça, on peut parler de ce qui se passe un peu dans la BD. Mais dans la série, il est avec sa copine, commence à jaser de, tu sais, oh, ben, on se prend une appartance en whatever, nanana. Puis, tu sais, il niaise un peu, ils ont une belle complicité, c'est funny. Puis, lui, il est à New York, et lui, il est sur le trottoir, OK? Et elle est un pas à l'extérieur, en bas du trottoir dans la rue. OK? Donc, il est juste plus grand qu'elle parce qu'il est sur le trottoir un petit peu comme ça. Puis là, il se donne un bec, il s'embrasse. Et là, t'entends juste comme un boum. Puis là, tout est au ralenti. Puis là, tu vois juste du jus, là, à revoler, là. Une soupe de personnes qui revolent partout. Puis tout ce qui reste de Huey, c'est lui qui est là, comme complètement, genre, comme, what the fuck, qu'est-ce qui vient d'arriver? Plein de sang dans la face. Puis juste les deux mains de sa blonde encore dans ses mains. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que A-Train, qui était de passage, il est en train de courir, puis il a juste passé dans la fille. Il a passé à travers la fille, puis la fille a juste explosé.
Parce qu'il court beaucoup trop vite.
Il courait vite en tabarouette. Fait que c'est tout le premier épisode, c'est tout comment il pédale après ça pour essayer de rattraper ça, comment la compagnie a fait juste dire comme ben. Ouais, mais tu sais, c'est parce que la fille, elle était dans la rue, puis là, lui, il courait après des voleurs de banque, puis là, elle était en plein milieu de la rue, fait que, je veux dire, ça, elle aurait pas dû être là, nanana, nanana. Puis là, il essaye de spinner ça comme si c'était vraiment...
Il signe une déclaration de non-divulgation, puis... Ouais.
On va te donner de l'argent pour que tu fermes ta gueule. Fait que c'est vraiment comme ça que s'il y avait des super-héros, ça devrait marcher, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des accidents, c'est sûr et certain. D'ailleurs, c'est un peu de la même façon comme, tu conduis un camion de pompier, là. C'est sûr que c'est arrivé, là, qu'un moment donné, quelqu'un s'est fait rentrer dedans par un camion de pompier, là. Mm. Pompier, c'est des héros, mais ça peut arriver des fois qu'il en échappe une, tu sais. C'est la même affaire que les super-héros aussi.
Moi, je trouve ça comique, la grosse différence, c'est que dans le show, c'est vraiment A-Train qui tue sa blonde en fonçant dedans directement. des comics, A-Train est en train de se battre contre un vilain, puis pendant que Yui est en train de tourner avec sa blonde en se tenant par les mains, A-Train, il garoche le méchant en super speed, tu sais.
Ouais.
Le méchant fait juste revoler sur sa blonde, arrache le corps de sa blonde et se fait écraser dans un mur en crêpe, tu sais, en bouillie. Puis A-Train, comme dans le comic, c'est pas lui qui a vraiment tué sa blonde au premier degré, là, parce qu'on s'entend que c'est quand même lui qui a tué sa blonde.
Quand même lui qui a tué sa blonde. Comme, ben, c'est super méchant, il a revolé dedans.
Ouais, c'est de la faute du vilain, un peu, tu sais, dans sa tête à lui. Mais il se désintéresse complètement, tu sais. La seconde que le méchant hit le mur, tu vois qu'il y a plein d'ambulanciers, puis les, A-Train, il check les ambulanciers. Ah, vous allez vous occuper de lui, j'espère, là, parce que moi, j'ai pas le temps de m'occuper de cette bande-là, là.
Ouais.
J'ai toujours l'air vraiment... à m'occuper de ce déchet-là, là.
Ouais, comme moi, je ramasse pas ma merde.
Aucun remords.
Ouais. Ouais. D'ailleurs, parlant de début de la série, puis de aucun remords, puis de. Moi, j'aimerais ça qu'on parle un peu. Je voulais qu'on parle un peu de. La série, en fait, elle est plus ou moins basée sur la trame narrative du comic. Elle est beaucoup plus basée sur, dans les deux dernières années, ce qui a été, mettons, important dans les médias, la trame, un peu, une trame narrative, où est-ce que. On parlait de ça, puis comme c'était beaucoup le mouvement MeToo, la montée aussi du bon des nazis aux États-Unis, on peut appeler ça la montée, là, on peut argumenter qu'ils ont toujours été là, puis qu'ils plateau pas mal à l'enfer, mais mettons qu'on dit la montée, puis cette trame narrative-là est pas mal plus poussée à ce niveau-là, donc on peut voir, mettons, puis il y a un peu la même chose dans la BD, mais beaucoup plus, où est-ce que quand Starlight, elle rentre dans les Seven, elle rentre parce que Lamplighter, ben il prend sa retraite, parce qu'ils ils veulent plus de lui, puis...
Ce qui est
Puis là, tout de suite, quand elle arrive, bon, ben là, elle se fait lancer plein d'éloges, tout le monde est vraiment content qu'elle soit là, même si personne la connaît, puis c'est qui, nanana, nanana. Et là, elle commence à parler, puis dans la série, elle est avec Dodi, donc le Aquaman, de la parodie du Aquaman. Et là, le Aquaman, il est comme, ah, ben j'espère que t'es contente, c'est vraiment cool que tu sois avec nous autres, on a du fun, nanana. La fille est comme, ah oui, tu sais, je suis une grosse fan, d'ailleurs, j'avais un post sur toi sur mon mur quand j'étais jeune, tu sais, j'ai un petit crush sur toi, whatever. Puis pendant qu'elle est en train de dire ça, après ça, ça revient de bord. Puis il y a juste The Deep qui a baissé ses pants puis qui est juste en train de se crosser, genre. Fait que là, après ça, elle capote un peu, là, et comme à un moment, je vais y péter à la gueule. Puis là, après ça, The Deep commence à y parler puis commence à lui dire, ben regarde, moi, j'étais un peu le number two ici, là. Si tu commences à m'attaquer puis tu commences à avoir cette attitude-là, t'es plus dans Seven, là, c'est fini, là, ton rêve est parti. Fait que là, moi, si j'étais toi, je fermerais ma gueule, je fermerais mes yeux, puis on va passer un beau 2-3 minutes le fun, puis après ça, ça va être fini, puis c'est ça qui est ça, puis on m'entend plus. Puis ça, c'est. Pour ceux qui le savent pas, c'est beaucoup du harcèlement sexuel. C'est très beaucoup du harcèlement sexuel. Puis ça donne le ton pas au direct que comme ces gens-là, ces héros-là, c'est des salauds. C'est des, ils sont au-dessus de tout. La compagnie elle les protège. Ils font sans calice.
C'est même des BD, c'est Homelander directement.
En fait, c'est les trois. C'est A-Train, Homelander, puis Black Noir.
Party.
Ouais. C'est encore pire. Ça donne le ton au reste de la série. Moi, je trouve ça le fun. Ça commence comme ça. Ça commence vraiment pas bien.
Non, effectivement. La série, tu l'as dit, elle met l'emphase sur beaucoup de conflits majeurs qu'il y a eu. Tu sais, ça a commencé avec justement les dénonciations sexuelles. Ben, premier épisode, t'as une scène qui vient te marquer là-dessus. Tu sais, récemment, on parle beaucoup dans les médias qu'il y aurait une montée de la droite extrémiste. Ben là, il y a eu une série quasiment au complet, une saison complète sur le néo-nazisme, puis un vieux héros nazi qui reviendrait essayer de remonter ce sentiment-là dans la foule.
Ouais.
Puis ils ont pairé ça avec la même arc où Homelander devient de plus en plus convaincu qu'il est divin, qui est Dieu, tu sais, au point où il vient même à coucher avec lui-même. T'sais, il y a un super-héros qui a son pouvoir, c'est de se cloner ou de changer son apparence un peu comme Mystique des X-Men. Puis à la fin, il trouve plus qui a envie de coucher avec, fait qu'il finit juste par coucher avec lui-même. Et comme, oh non, c'est pas gay, c'est juste divin, tu sais, moi, je suis la meilleure personne de sa planète, fait que je me fais l'amour en moi-même, c'est automatiquement the best shit, tu sais.
Ouais, c'est tout dire. Toute une série. Juste dans cette série-là, ça me fait capoter.
Une des grosses différences avec les comics, je dirais, c'est qu'il y a moins l'aspect gros conflit de la société. C'est plus mis sur le multiniveau de comment une grosse compagnie comme Vought peut être nuisible. Dans les origin stories de Mother Milk, de Frenchie, de... Comment elle s'appelle la fille? Kimiko?
Kimiko, oui.
Kimiko... tous ces personnages-là, tu vois que leur background, quand ils étaient jeunes, leur famille a été nuit ou leur entourage a été nuit par Vought. Puis aussi, tu vois qu'au travers le temps, ils sont devenus tellement gros que le vice-président, c'est une popette de vote. Puis il finit même par devenir le président, ce dude-là. Fait que t'as de président à détruire la classe moyenne et pauvre en leur pilant dessus, en les intoxiquant. Ça, c'est plus mis de l'avant que tous les autres conflits qu'on a dans le show. Un bon exemple, c'est que Mother Milk, dans la comic, il y a des super-pouvoirs, mais il y a aussi une weakness à ces super-pouvoirs-là, parce que sa mère a travaillé dans une usine de Compound V, mais de très bas de gamme. Puis à force de travailler avec les produits, tout le monde est mort quasiment, sauf 5-10% des employés. Puis sa mère en faisait partie, sauf qu'elle a eu Mother Milk pendant ce temps-là, pendant qu'elle travaillait là. Fait qu'il quand elle nourrissait au sein, c'est pour ça qu'il est super musclé. En théorie, DBD est encore plus musclé et encore plus beef. Ouais, c'est qu'il n'a jamais arrêté de boire le sein au sein de sa mère. Il n'a jamais arrêté de boire le lait maternel de sa mère parce que s'il arrête, il meurt. Parce que ça a été contaminé par le Compound V.
Ou son prénom.
Mother Milk.
Puis... c'est un nom vraiment weird à donner à un brawler.
Ouais, c'est vraiment weird. En plus,
il... c'est comme si ton linebacker dans ton équipe de football s'appelait Chaton, tu sais.
C'est vrai, c'est exactement ça. Mais je trouvais ça passionnant parce que c'est deux enjeux complètement différents, mais sur la même satire. Tu prends le même contexte, mais avec deux perspectives complètement différentes, où une, dans la BD, c'est plus de démontrer comment une multinationale, à tous les niveaux, elle a des problèmes. Ouais. Évidemment, il y en a là, que ça se peut qu'il aille bien. C'est juste qu'il y en a des problèmes. Puis vu que c'est une dystopie, ils sont mis dans le tapis. T'sais, tous les problèmes sont à 100%, puis il n'y a aucune solution possible, tout le monde souffre.
Exactement. Tu sais.
Dans le show, c'est la même chose, mais pour les conflits sociaux.
Ouais. Je suis content qu'on apporte ce point-là parce que, tu sais, mettons, je compare beaucoup, mettons, le vote un peu à Disney, mais c'est plus par association. Là. C'est vraiment pour donner une image, tu sais. Je pense que le monde qui rentre chez Disney sont violés dans la face, là. C'est pas ça partout, là. Mais en même temps, c'est sûr que si c'était pas une satire dystopique, ce serait pas autant fort. Dans la série, tu vois Homelander, dans le fond, parce qu'on parle beaucoup. Ça s'appelle The Boys parce que l'équipe qui traque les super-héros et qui essaie de les tuer, ils s'appellent entre eux autres les Boys. Ouais. C'est une équipe à eux autres. Puis dans la série, ce qui part cette belle gang-là, c'est William Butcher, on en a parlé un peu. Puis lui, dans le fond, dans la série, il est marié avec une femme qui travaille pour Vought. Elle travaille en... je pense qu'il est en communication, là. Elle gère genre le Facebook de Homelander, quelque chose comme ça. Puis à un moment donné, Homelander, il décide que, ben, il va la violer. Ça, il tente, qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter, personne ne va rien faire. Fait qu'il décide de la violer. Puis après ce viol-là, la femme de Butcher, elle tombe enceinte. Puis, pour la première fois dans la série, en tout cas, un super-héros est né d'un autre super-héros. Avant, c'est vraiment
ça rend stérile, le compagnon.
Ouais. Ça rend stérile, puis c'est peut-être pas nécessairement... Le match génétique est peut-être pas aussi parfait, là. Mais là, c'est la première fois que... Puis tu vois littéralement un peu des scènes où est-ce que elle accouche, puis écoute, là, imagine donner naissance à Superman. Ben, le bébé, là, de Superman, là, s'il décide, là, qu'il
sort... Il est pas mou, là.
Il est indestructible. Fait que tu vois la scène où est-ce que quand il décide de sortir, ben, il sort. Fait que c'est pas cute, mais pas pantoute. Mais en même temps, ça va vraiment chercher le côté de pourquoi est-ce que ce gars-là haït autant les super-héros puis les haït tous égales. Parce que même si un bébé naissant est aussi horrible et complexe, c'est autant horrible puis atroce qu'il est capable de faire ça, qu'est-ce qu'un adulte normal serait capable de faire avec des pouvoirs? Fait qu'on jamme vraiment ça dans la gueule que comme les super-héros, c'est tous des salauds, c'est des sales. Et surtout William Butcher, les haït. Yézaï, joué par le fabuleux Carl Urban, qui est très bon pour être en tabarnak. Il y a une face de gars fâché en
permanence. Ouais, c'est vraiment bon pour Billy Butcher.
D'ailleurs, s'il est à l'écoute, Monsieur Urban, ma blonde aimerait beaucoup porter vos enfants.
Juste comme ça.
Justement, elle aime beaucoup. Fait que non, mais c'est ça. Fait que
c'est un truc de bien de Billy aussi que je trouve, c'est qu'il apporte, il pousse le concept. Puis le show pousse le concept aussi que si t'es un héros gentil puis tu meurs gentil, c'est que t'as juste pas vécu assez longtemps pour devenir un vilain.
Ouais.
Cette trame-là, lui, il croit dur comme fer. Ouais. C'est impossible que t'aies des super pouvoirs puis que tu restes gentil. C'est drôle parce que cette théorie-là là, est vieille de comme 2000 ans et quelques. Là. Platon a apporté cette idéologie-là avec l'anneau d'invisibilité. Il disait que si quelqu'un avait un anneau qui le rendait invisible, c'est sûr qu'il ferait du mal avec. Pas qu'il ferait uniquement du mal. Je pense que la série, elle nous le démontre avec beaucoup de personnages qui sont pas juste uniquement de la merde. Homelander, tant qu'à moi, il est uniquement de la merde. Mais il y en a autour de lui, tu vois que c'est juste, ils ont jamais été élevés. Ouais. Ils ont été pitchés dans une cage à juste essayer de tester leur pouvoir, mais sans les entraîner vraiment.
Non, c'est vraiment des produits.
C'est des produits. Fait qu'ils sont super mésadaptés. Ils comprennent pas ce qui se passe. Puis c'est ça, leur dire que face à ce pouvoir-là, c'est sûr qu'ils n'auront pas l'effort moral de pas utiliser ces pouvoirs-là pour le mal.
Ouais. Puis moi, je pense que j'ai une théorie aussi, une théorie personnelle. Là, il n'y a rien de scientifique là-dedans, là. Mais moi, je pense que...
Un podcast scientifique!
Non. Mais moi, je pense que, mettons, là, moi, là, je décide que je me trouve hotshot, là, puis que je décide que je m'en vais voir, je sais pas moi, le plus gros gars dans mon quartier, puis je décide que c'est moi maintenant le boss, puis je décide d'aller m'aller péter à gueule pour devenir le plus gros boss. Et dans la vraie vie, mettons, de tous les jours, si le gars mesure 6 pieds 5, pèse 250 livres de muscles, puis il a déjà fait du jujitsu, la réalité physique des choses fait que je vais peut-être me tenir tranquille ou je vais peut-être y repenser à deux fois, tu sais. Je vais le pogner dans le dos, mais qu'il regarde pas.
C'est dégueulasse.
T'as pas le... Non, mais t'as pas le choix, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu joues ta game, tu sais. Mais quand t'es capable de comme passer à travers une montagne, laser du monde puis qui explose, quand t'es capable de juste puncher à travers un mur de briques, que le gars mesure 6 pieds, 7 pieds, qu'il aille, c'est plus la même game. Ça l'enlève cette voix-là dans ta tête qui dit comme ouais, t'es-tu sûr?
Ben surtout aussi qu'il y a beaucoup qu'on se tient en collectif pour se protéger. Tu sais, l'humain à la base, on est en société parce qu'on est weak comme animal. T'sais, on n'est pas capable de juste survivre solo aisément, facilement et adéquatement.
Ouais, on n'est pas bon.
C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui, dans le monde des super pouvoirs, il y a aussi l'idéologie de Magneto qui embarque, qui ont poussé avec le néo-nazisme dans le tapis. Là. Si t'as des super pouvoirs, c'est sûr qu'après ça, tu regardes l'humain un peu qui a besoin d'autres personnes pour survivre. Tu es comme, mais moi, je peux voler, aller à comme 10 000 km/h, tirer. Il n'y a rien qui peut physiquement m'arrêter. C'est sûr qu'après ça, le stress et la peur et l'envie d'être en société doit pas être super grande, parce que c'est comme, qu'est-ce que la société m'apporte?
Ouais. C'est une bonne... C'est un peu le concept de « Who watches the watchers » là qui est très présent dans Watchmen, qu'on va un jour parler, parce que ça aussi, c'est fucking d'accord. Ouais. Mais là, on parle de le boss. Est-ce que tu voulais parler aussi de... Si je m'en vais avec ça. Tabarouette.
Star Wars.
Tu veux-tu parler un petit peu de... d'autres personnages, genre comme, mettons, Frenchie un peu, ou Kimiko, ou Starlight un peu. On a parlé de Starlight, on est correct avec Starlight.
Ben, Starlight, t'as parlé un peu dans le show, en expliquant son origine, un peu différente d'un comic. Dans les comics, Starlight, elle a été vraiment abductée par Vought. Elle n'a pas été élevée dans une famille normale, puisqu'à la naissance, elle est devenue tellement bright qu'elle a aveuglé complètement ses parents. Fait que la famille d'adoption qu'elle a été placée, t'apprends que Vought a comme une liste de familles qui veulent faire de la pub avec leur enfant. C'est comme s'il y avait une liste de tous les mauvais parents. Puis après ça, ils prennent ces enfants-là, puis ils les donnent à ces parents-là, puis il fait...
On salue tous les parents d'enfants acteurs.
Pas d'enfants acteurs, de pageant show. Ça, là, surtout très jeune, très, très jeune pageant show. J'ai
des... Tu légal au Canada?
J'espère juste que non! Pis comme c'est ça qu'ils font, mais avec des super-héros. Fait qu'ils se prennent plein de parents, qu'eux autres, ils aiment ça, show-off leur enfant, laissent ça de même, ils les mettent en ligne, ils mettent du maquillage, « Oh, démontre ton super-pouvoir! » Fait que Starlight était quand même bonne là-dedans, parce que vu qu'elle a rendu aveugle ses parents à la naissance, Vought était comme, « Oh, elle, ses pouvoirs sont bons! » Fait qu'ils ont mis de l'argent sur elle pour qu'elle s'entraîne, pour qu'elle arrête d'aveugler tout le monde, tu sais. Mais t'as d'autres enfants qui n'ont pas des pouvoirs intéressants, fait qu'eux, ils n'ont pas d'argent mis sur eux. Puis tu vois comment ces enfants-là, ils finissent tous par se tuer, ou se déformer, ou s'handicaper lourdement. Comme il y a une des enfants avec Starlight, pendant la compétition, elle, son pouvoir, c'était comme de faire une genre de fumée toute belle avec ses mains, sauf qu'en faisant ça, elle a fait fondre ses yeux. Direct sur le show.
La physique,
ça. Ça, c'est un autre point que j'adorais, parce que tu montrais que OK, t'as du potentiel à la naissance? Bon, on va t'aider. On va t'aider, mais si t'as pas de potentiel à la naissance, oh, hey, arrange-toi, là.
Et, un autre élément qui est le fun, on le voit un petit peu moins dans la série, plus dans les BD, c'est, bon, les super-héros, ils ont un peu comme ce qu'on appelle ils ont des ligues. Et mettons qu'on dit que les Seven, c'est genre la ligue majeure, ben t'as les ligues mineures, t'as le junior majeur, t'as le bantam, whatever. Fait que t'as comme des listes un peu de super-héros. Puis t'as des sidekicks. Okay? Donc c'est comme des adolescents super-héros qui sont comme, ils sont prometteurs, sont dans le game. C'est un peu comme le Disney Channel quand il commence à pousser Miley Cyrus. Là. Tu vois que à ce moment-là, à jouer Anna Montana, c'est un produit de Disney, c'est une jeune fille. Puis là, une fois que là, elle appartient plus à ça, et là, elle est sa propre artiste, elle est dans une autre ligue, là, elle est rendue comme dans une autre ligue de whatever. Mais c'est vraiment les B-lists, là, les petits sidekicks, là, ceux qui sont le fun puis tout. Puis on les voit pas beaucoup on en a parlé un petit peu dans la série. Très tu les vois plus ou est-ce
que brièvement? Tu vois plus. Il dit à A-Train un moment donné qui est plus le plus vite parce qu'il y a un autre speedster qui a battu son record. Ouais. Genre. Fait que tu sais qu'il y en a un peu dans le background, mais tu les vois pas vraiment mis de l'avant.
Ouais. On voit aussi beaucoup des personnages, genre un moment donné, il y a un personnage qui s'appelle Gecko. Lui, il travaille pour Vought, ils font des expériences dessus. Puis lui, son super pouvoir, c'est de. Il y a pas de douleur. Et si tu lui coupes le bras, ben son bras il repousse. Tranquillement, pas vite, là. Genre dans 2 minutes après ça, il repousse son bras. Fait que tu le vois un peu, puis lui, il y a un side hustle, il y a un petit sideline où est-ce que lui, ce qu'il fait, c'est que des gens, mettons, qui ont des tendances un peu meurtrières puis sadiques, là, lui, il va les voir, fait juste comme hey, t'attends-tu de me chopper un bras? 500$. 500$, puis tu peux me chopper un bras, pas trop. Même dans la série, il est juste comme tu vois la scène où il y a un gars qui chope un bras, comme il a du fun à y chopper un bras parce que lui, il peut juste le repousser. Il dit même, tu peux le garder si tu veux, pas trop. Puis après ça, avant de partir, il dit, tu sais, pour 1000$, si tu veux, je te laisse chopper mon dick. T'sais? Fait que c'est juste de voir ces affaires-là. T'en vois un autre, lui, il avait une série télé dans les années 80. Lui, quand il touche, il est capable de lire dans ton esprit. Fait qu'il y avait une petite télé-réalité où est-ce qu'il était comme un enfant médium, là. Puis bon, en vieillissant, ben c'est juste un gars qui vit de se promener de Comic-Con en Comic-Con un peu, là. Fait que tu le sais qu'ils sont là, tes voix qui sont là. Puis en tout cas, je trouve ça le fun. Mais dans la BD, tu vois vraiment, vraiment plus les équipes.
Puis d'ailleurs, comme on les voit plus, ces équipes-là, il y a un personnage qui est super important dans les comics, c'est Legend. Puis Legend, c'est comme si... tu sais, pour continuer l'analogie, comme si Disney c'était Vought, c'est comme si ces acteurs-là avaient vraiment des pouvoirs. Tu sais, Rodney, c'est vraiment Iron Man qui est capable de faire ces soutes-là. Mais son histoire que tu vois dans les films, c'est une équipe qui la met en scène, puis c'était Legend qui la met en BD. Fait que de temps en temps, ce personnage-là pouvait t'arriver puis dire, voici ton origin story. Maintenant, c'est ça que tu dis au monde que t'es.
Ouais. Ils ont un marketing, c'est ça qui est le fun, parce que t'as certains héros, mettons, là, je parlais de Swing Wing, lui, dans le fond, dans l'univers de cet univers-là, vu que c'est une satirique, c'est un univers qui est très conservateur, parce que c'est toujours plus controversé dans un univers conservateur d'avoir un peu d'ambiguïté ou d'être un peu dans le gris, fait que c'est beaucoup comme ça. Puis dans cet univers-là, lui, c'est un super-héros, et eux autres, ils l'ont marketé comme étant un super-héros gay-friendly, OK? Donc, il va beaucoup voir les super-héros qui ont des problèmes par rapport à ça, ou ce qu'ils pensent qu'ils ont des problèmes par rapport à ça. Il y a des super-héros qui se confient à lui. Son image, c'est vraiment d'être gay-friendly, d'être full LGBT-friendly. Tu sais, vraiment, c'est comme le héros gay. Sauf que lui, il n'est pas gay partout. Là. C'est juste un gars qui était super-héros, puis la compagnie a juste dit, « Toi, on t'a marketé de cette façon-là. » Ça passe pas. Fait que t'es rendu ça. Fait que c'est un concept là. Puis dans la télésérie, à un moment donné, A-Train, bon, il se fait un peu kick-out parce que ben il y a des problèmes là, mais à un moment donné, ils disent, écoute, non seulement t'es remplaçable, mais A-Train, là, c'est un trademark. C'est on own A-Train, c'est pas toi. Là. Moi, je peux prendre quelqu'un d'autre, le crisser dans le même suit, puis l'appeler A-Train.
Ça va parce que les comic books font la même chose avec le mental qui passe d'une personne à une autre. T'sais, c'est un peu le concept que Batman ou Robin, ça peut être plein de Robin, ou que Iron Man pourrait être une autre personne dans une armure, ou Spider-Man, il y en a plein. T'sais. Ça, c'est la même chose. C'est A-Train, c'est à nous. Toi, t'es juste le gars dans A-Train. C'est comme une mascotte.
Ouais. Si tu fais pas l'affaire, on va en trouver un autre qui court plus vite, t'sais. Ou qui court à peu près vite comme toi, mais on l'aime plus que toi.
On va l'appeler A-Train.
C'est ça.
Toi, arrange-toi.
Ah ouais, ça me fait tout ce marketing là dans la série. Un point que j'aime beaucoup, c'est qu'à un moment donné, bon, dans la série, Maeve, elle est bi, ok, sa sœur, elle a une blonde un peu bi, puis à un moment donné, elle se cache de ça parce que c'est pas son marketing. Son marketing, c'est une femme puissante, puis elle aime ça les pénis. Bon, parce que c'est une Amazon.
Ça, en fait, c'est que les Seven défendent beaucoup l'événement Capes for Christ, qui sont, dans le fond, c'est de la propagation chrétienne. Fait que c'est comme mal vu pour Queen Maeve d'être bisexuelle dans cet univers-là. Surtout que Homelander met beaucoup de pression à comme, t'es censé jouer comme si t'étais ma chick, ça boy.
Ouais. Bon. Dans la série, à un moment donné, ça sort. Bon, elle est bon. Les autres, ils disent elle est lesbienne, elle est pas lesbienne, elle est whatever. Tu sais, ouais. C'est ça. Puis là, elle est là avec sa blonde. Puis là, il y a l'équipe de marketing. Puis là, l'équipe de marketing est comme, bon, regarde là, vois-tu comment qu'on va retravailler ton brand? Là, tu sors. On va faire un gros hashtag Brave Maeve. Où est-ce qu'elle est là? Elle a un gros drapeau LGBT comme la fière défendeuse des droits LGBT. Puis, tu sais, c'est pas ça qu'elle veut, là. Tu sais, c'est pas. Elle défend pas les droits. Elle est juste bi. Elle veut juste être bi.
C'est
juste
pour montrer aussi la force du marketing. Ça, dans le show, ouais. Tu le vois sur Maeve à ce moment-là. Mais tu le vois sur Starlight. Starlight, à la base, elle voulait être habillée prude.
Ouais, c'est vrai.
Il y a les force à être, parce qu'il dit, ben non, mais ça marchera pas avec les jeunes male audience. Faut que tu sois sur la liste, sinon le monde te regarderont pas, ils seront pas appeal par toi, tu sais.
Ça, c'est ton. Puis là, ils vont dire, ben c'est empowering, tu sais, c'est une strong woman, t'as pas peur de cette asexualité, pis tout. Puis c'est vraiment comment qu'ils jamment dans le fond de la gorge, c'est un marketing-là de ces super-héros, puis c'est ça ton brand.
Tellement... Dans le fond, c'est un peu ça que Billy Butcher il dit, c'est que la compagnie est tellement lourde, le monde de l'apparence va être tellement lourd que c'est sûr que tu casses. C'est impossible que tu restes bon jusqu'à la fin. C'est là qu'on... Tu sais, pour revenir sur Swing Wing, ça, c'est ça? J'ai de la misère avec son nom. Non, étrange. Le personnage, il commençait à être malheureux de ça, puis pas parce que ça ne tentait pas d'aider la communauté gay, parce qu'il commençait de plus en plus mal à l'aise à se faire dire lui-même qu'il l'était quand il ne l'était pas, puis à se faire refuser son hétérosexualité. C'est comme se faire refuser sa personnalité, c'est parce que c'est le conflit qu'on fait vivre, que la communauté générale fait vivre aux minorités. Puis là, c'est comme retourner sur lui-même. C'est comme, on m'empêche d'être un blanc hétéro normal. J'ai tout ce que je veux être, puis on veut pas. Ça, je trouve ça super drôle, parce que ça finit même par le briser. Parce que son arc, à lui, finit par... Il y a quelqu'un qui avoue ses sentiments sur le top d'un toit, puis il dit comme, non, je suis juste pas intéressé, je suis pas gay. Puis il dit, non, je sais que t'es gay, là, tu sais, embrasse-moi, je t'aime. Puis en bas de tripant, il pousse en bas du building.
Ouais. Ça. C'est
briser tout le monde, c'est empêcher un individu d'avoir sa propre personnalité, c'est super important pour vendre. Parce que si tu commences à avoir ta personnalité, tu vas te distancer du produit. C'est important que tu restes un produit. Puis un produit, ça n'a pas d'identité.
Exactement. T'es un littéralement un produit. Je veux amener j'amène un autre sujet là, de Boys que je voulais qu'on parle pendant qu'on a encore le temps. Je voulais parler de dans la saison 2. Ils ont une église qui s'appelle The Church of the Collective, qui est clairement, clairement une parodie de la Scientologie.
Oui.
Où est-ce que, dans le fond, aux États-Unis, pour ceux qui ne savent pas, la Scientologie, c'est supposément une église basée sur un monsieur qui s'appelle L. Ron Hubbard, qui écrivait de la science-fiction, bon, qui s'est monté tout un... trame narrative. En tout cas, c'est bien spécial, là. Vous irez voir ça si vous voulez. C'est un peu spécial. Puis c'est très... c'est très fermé dans le sens que c'est très contrôlé. Fait qu'eux autres, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent avoir, c'est qu'ils veulent avoir une visibilité puis une bonne visibilité. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont sûrement... Ils vont recruter des acteurs, comme, mettons, Tom Cruise ou John Travolta ou des trucs comme ça. Donc, c'est les deux qui sont les plus fameux dans la Scientologie. Et là, ils vont vraiment les aider. Ils vont s'assurer que tout se passe bien. Ils vont les matcher, ils vont y donner comme mettons Tom Cruise. Bon, la rumeur veut que la Scientologie aurait trouvé une femme, puis aurait dit regarde, ça va être ta femme, puis tu vas être heureux, nanana. Puis que la fille était fait comme des choisies pour être la femme de voilà, en tout cas. Fait que c'est cet univers-là. Puis dans la série, c'est il est pas là. En tout cas, je l'ai pas lu dans les BD, je pense pas que je suis rendu là. Moi mais non dans plus, la série, Non, dans la série, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça coche. Comment qu'eux autres, ils essayent de se monter une image positive. Là, ils prennent The Deep, OK? Parce que The Deep, dans la série, il est en downfall, là, mais solide. Là, il se fait caler par Starlight parce qu'il a harcelé sexuellement. Là, il y a des problèmes de consommation. Puis lui, il est un peu tourmenté parce que il y a deux affaires. La première affaire, c'est qu'il parle aux poissons. Puis tu sais, les humains traitent particulièrement pas bien les poissons. Fait que tu le vois dans la série, à un moment donné, il est juste drunk, il est allé à Marine World, puis il a juste jasé avec un dauphin. Puis là, il vole le dauphin, il l'amène dans un camion, puis là, il essaye de le sauver en le ramenant à la mer, complètement drunk dans le camion. Il jase, puis à un moment donné, comme il porte pas attention à la route, puis il break sec. Puis le dauphin est éjecté du camion, il revole sa rue, puis là, il y a genre un 18 roues, bam, ramasse le dauphin, puis tout. Fait que c'est incroyable. C'est juste des coups médiatiques que le gars, il peut pas manger en tant qu'Aquaman, mais qu'il mange pareil. Puis là, il est en gros, gros déclin. Fait que là, la church de le collectif, elle le reprend sous son aile. Fait que là, elle fait faire de la thérapie, genre. Puis là, il essaie de le remonter, il trouve une blonde, il essaie de changer son image. Il essaie vraiment, vraiment, vraiment de le remonter. Puis c'est vraiment un beau clin d'œil à ces institutions-là qui font ça.
Qu'on apprend que quand votre reprend des gens de ce collectif-là, il y a une cote qui va au collectif. Parce qu'on sait que dans la Scientologie, il faut que tu donnes une partie de ton salaire. C'est comme encore plus une preuve que c'est une satire du concept. Ouais. Puis encore plus, moi, je trouve, c'est quand le gars... T'apprends que le chef du collectif, il est raciste envers A-Train. Oui. Il fait juste pour ça, pour le cash, mais dans le fond, il l'haït complètement. Oui.
C'est incroyable. Moi, je trouve ça drôle, puis j'aime ça, l'image où est-ce qu'à un moment donné, il est comme... Parce que The Deep, il se fait approcher par un autre super-héros qui s'appelle Eagle Watcher, c'est juste un archer. Là.
C'est une parodie d'Arrow.
Ouais, c'est ça. Fait que lui, il l'embarque un peu dans cette affaire-là, puis il est là pour le supporter, il est là pour l'aider. Puis à un moment donné, bon, les événements avancent un peu. Puis là, c'est un party pour Dedi, pour sa fête. Fait qu'il y a sa nouvelle blonde, il y a ses amis, puis tout. Puis là, t'as le président de l'église qui est là. Puis il dit comme, hey, je suis content, bonne fête, whatever. By the way, tu te rappelles-tu de Eagle Launcher? C'est comme, ouais, tellement nice, ce gars-là. C'est un de mes meilleurs chums. Il était là quand j'ai eu plus besoin de lui. C'est comme, ouais, on y parle plus. C'est une personne négative, on peut plus y parler. Il est suppressif. Fait que vous avez plus le droit de dire son nom. All right? On est cool? All right. Puis il fait comme, oh, ouais, elle est toujours haïe, ce gars-là. Qui ça? C'est vraiment cette grosse parodie de la Scientologie-là qui est super présente, que moi, je trouve ça complètement hilarant. Moi, rire de la Scientologie, ça me fait rire.
Dans les comics, à la place, ils ont mis beaucoup plus l'emphase sur comment la religion catholique utilise les super-héros, comment les super-héros, dont Homelander, commencent à voir ça comme « Non, Dieu n'existe pas parce que je suis supérieur à Dieu. » Il y a une scène incroyable dans les comics où, dans le collectif, le Cape for Christ, ils font tirer un prix où que les gagnants vont tous embarquer dans un auto ensemble. Puis que Homelander va les faire voler dans le ciel, tout cute, tu sais. Sauf que Homelander, il va voir le priest du collectif et comme, ah, tu peux-tu me réunir plein de super-héros que tu penses qui seraient comme down avec mon concept? Mais il reste très vague là, dans ce qu'il veut faire et ce qu'il veut dire. Il y a comme une centaine de super-héros, là, tu vois tout s'envoler ensemble, là, comme une fin de film. Là. Sauf que ça, quand ils sont rendus dans les nuages, évidemment, c'est des humains. Là. Les humains normales, tu peux pas être aussi haut dans les airs et te tolérer ça et que ça aille bien. Là. Ils commencent à grelotter, ils ont froid, ils commencent à avoir de la misère à respirer. Puis ils supplient Homelander d'être descendu. Puis là, Homelander fait juste les regarder et il dit, vous voyez, vous, comme chrétien, on est en haut des nuages en ce moment. Puis en haut des nuages, il y a juste moi. Puis il laisse tomber le chat. Fait que c'est un peu le... À place de mettre un peu des parodies de toutes les religions, ils ont juste montré comment démontrer l'idéologie de l'enfant divin, tu sais, d'un peu Jésus, puis d'être un élément divin, a rentré ben trop fort dans la tête d'Homelander.
Ouais, vraiment. J'aime la parodie, tu sais, ils niaisent un peu la scientologie, mais je veux dire, ça aurait pu être n'importe quelle église, ben, là, oui. Qui essaie d'avoir... C'est juste...
Mais c'était vraiment bien fait, il voulait un fresca.
Ouais, il voulait un fresca, puis à la fin, il s'en va, puis il fait... Fuck fresca. Ça, tu fais ça. Mais c'est pas nécessairement une église, mais n'importe quelle association qui essaye de mettre de l'avant quelque chose pour se remonter puis dire, regardez comment cette personne-là, depuis qu'elle est avec nous autres, et ça coche puis tout, puis de vraiment cette, c'est vraiment du marketing, du, c'est, parce que moi,
le monde de l'apparence.
Je trouve ça motherfucking coche.
C'est vrai que c'est assez insane. Tu as juste abordé rapidement sur The Boys?
Je trouve ça plate que ça se passe juste aux US dans la série, parce que dans les comics, c'est ça partout. Va un peu partout dans le monde.
Aussi, dont ça rend ça plus logique. Tu sais, je sais pas pourquoi, là, mais on dirait que voir Billy Butcher dans un comic qui connaissait déjà tout le monde, mais qui va les chercher dans leur actual pays.
Ouais.
C'est pas comme tout le monde fait hey, on a été appelé, on va prendre un billet d'avion et juste s'en aller sur un coup de tête, aller voir notre bon vieil ami Butcher.
Ouais.
Aussi, j'aime un des aspects d'un comic que j'adore, c'est que Kimiko fait partie de la team depuis forever. Ils l'ont pas comme trouvé puis apprennent à ce qu'elle soit fonctionnelle. C'est un enfant très tôt à développer ses pouvoirs super dangereux. Puis Billy l'a trouvé. C'est comme oh moi avec Frenchie évidemment. Là, puis toute la gang l'ont trouvé super tôt, bien avant Yui. Y a pas l'aspect un peu de mystère sur Kimiko. Kimiko c'est vraiment une of the boys. Tu sais le monde sont down sur l'aider. Je sais pas cet aspect-là un peu plus dark aussi du background de tout le monde. Je trouve que le background des personnages dans la série certains sont un petit peu moins dark. Tu sais, Frenchie, tout le monde autour de lui, ça allait mal. Tu sais, il s'est fait. Dans le show, c'est juste comme de l'overdose, c'est de la consommation surtout. Mais dans les comics, c'est comme un gars de la rue qui se fait voler sa blonde par le chef des gars de la rue, puis que là, lui, il veut pas se battre parce que c'est contre ses valeurs, mais que lui, il fait des tournois de baguettes. Ça, c'est fucked up, là! Dans une voie de The Boys, OK, les Français en France feraient des combats équestres dans lesquels ils se donnent des coups de baguette dures. Puis faut que tu fasses tomber! Puis c'est toi, spécialiste de ça! Oh, oh. C'est drôle! C'est le moins dark, évidemment. Là. Ben, je trouve que leur background est mieux expliqué, puis ça l'explique mieux pourquoi ils suivent autant Billy.
Ouais.
Puis pourquoi ils écoutent autant ce qu'il dit. Même s'ils disent non, ils vont finir par faire ce qu'ils veulent pareil. Là,
moi, je voulais amener un. Je pense que ça va être un peu mon dernier point que je vais amener. Parce que c'est vraiment juste moi qui est comme pipi caca poil. Mais dans les comics, il y a un personnage qui s'appelle Love Sausage, okay, qui est un gros russe super-héros. Qui a une force surhumaine.
C'est un des seuls héros, d'ailleurs, que Billy Butcher respecte.
Ouais.
Parce que, selon lui, si t'étais humain, puis t'as connu humain, puis là, mettons que tu développes des pouvoirs, puis t'as encore les mêmes comportements qu'avant, t'as un petit passe-droit. T'es pas de mal. T'es pas dans son top amitié, mais t'es pas de mal, tu sais.
Ouais. Dans la série, ce personnage-là, il fait une apparence, ben, un appearance, là, pas une apparence, mais il est là pendant peut-être, je sais pas moi, 30 secondes. Puis c'est plus un clin d'œil, justement, à la BD. Ou est-ce qu'ils sont dans un genre d'asile psychiatrique? Ou est-ce qu'ils font secrètement des tests sur des adultes pour voir s'ils peuvent pas juste leur donner des pouvoirs en tant qu'adultes? Ce qu'ils peuvent faire dans la BD, mais pas dans la série. Et là, il y a un gars dans sa cellule et tu le vois et tu vois que c'est clairement Love Sausage parce qu'il est, ben, il est immense, là. Il pèse comme 300 livres, là. Puis il a des grosses barbes et des cheveux et tout. Et son pouvoir, à part d'avoir une super force, c'est que il y a un pénis, tentacule. Donc, il peut littéralement l'allonger, là, à comme des mètres et des mètres et des mètres, puis il y a comme contrôle dessus, là. Fait qu'il pourrait, genre, si t'es loin devant lui, là, il pourrait te lancer puis te choquer avec puis te ramener puis après ça. Fait que c'est vraiment très drôle. Il est là dans la série un petit peu. Tu vois un petit peu ses pouvoirs, tu le vois pas longtemps, mais c'est fucking drôle, puis c'est le fun que ce soit comme ça, pas parce que je capote sur les gros messieurs qui ont des pénis qui s'allongent, mais parce que, mettons qu'on vit dans un monde où il y a des super pouvoirs, on a une vision super étroite de ce que ce serait un super pouvoir. Fait que genre, la super force, les yeux laser, pis tout, c'est on a comme un carcan, un peu comme si je demandais à quelqu'un, décris-moi un extraterrestre, il dirait un petit bonhomme vert avec des yeux spéciaux, tu sais, parce que c'est juste comme un consensus qu'on a des super pouvoirs, mais s'il y avait vraiment des super pouvoirs, il y aurait pas juste des super pouvoirs flatteurs, il y aurait des affaires complètement fucking insane, tu sais, des gens qui auraient juste une jambe, mais une crise de jambe, ou des il y en a un mané, il vomit, c'est ça son super pouvoir, il vomit de l'acide, mais il se vomit dans la face, fait qu'il meurt.
Parce que ça le brûle lui aussi. Il n'est pas immunisé à sa propre acide qui vomit.
Ouais, plein d'affaires. Du monde qui exploserait juste parce qu'ils peuvent exploser.
Mais ce que j'aime aussi de voir dans les comics, c'est que les super-héros comme sont pas trained, Billy est capable d'en take down plein. Parce que, tu sais, dans le show, tu veux pas. Ben, ça coûte cher aussi, là, faire des special effects sur tout plein de special power, puis les dessiner, ça coûte un peu moins cher. Fait que, il y en tue plus de super-héros, OK, Butcher? Puis il y en a un, là. Son pouvoir, c'est de changer de forme, mais il peut devenir comme semi-liquide ou gazeux. Puis à un moment donné, il s'amusait juste à terroriser un groupe de super-héros qui ont tous un peu des maladies mentales, qui sont un peu mis de côté parce qu'ils ont des problèmes. Comme il y en a un, il y a la tourette sévère, il y en a un qui a trop peur pour faire quoi que ce soit. Ils ont tous des pouvoirs qui sont bons, mais à cause de leurs conditions, ils peuvent pas être pris au sérieux dans les Seven ou autre.
Ouais.
Mais ils se font envoyer un nouveau membre, que lui, son pouvoir, c'est ça, c'est de changer de forme un peu. Puis il décide de terroriser le groupe parce que lui, il est evil puis qu'il trouve qu'ils ont pas d'allure, tu sais. Puis pendant qu'il est en gaz, Butcher fait juste allumer un lighter en dessous de lui. Puis ça, je trouve ça fou parce que tu vois que les super pouvoirs, autant qu'il y en a qui ont pas de weakness, il y en a que le weakness, c'est leur propre pouvoir.
Ouais.
Tu sais, si tu deviens en gaz pis t'es pas le pouvoir d'être, comme d'avoir résistance au feu, t'es un produit inflammable quand tu deviens un gaz, c'est peut-être pas une bonne idée d'utiliser ton pouvoir dans le fond aussi.
Puis j'aime ça aussi comment c'est un peu cru dans le sens où est-ce que dans la série au début, ils réussissent à enlever un super-héros qui s'appelle Translucid. Okay? Oui. Son pouvoir à lui, c'est que sa peau, elle se transforme en genre de carbone, puis il est capable de refléter la lumière, fait qu'il devient invisible et indestructible en même temps. Bon. C'est parce qu'ils ont des super-héros qui ont comme deux ou trois pouvoirs. Anyway. Puis ils réussissent à
ça fait n'importe quoi dans ton corps. Fait.
C'est ça.
Starlight, dans le comic, elle vole. Je me souviens plus, dans le show, elle vole pas. Hein?
Starlight, non, elle vole pas.
C'est ça. Dans le comic, elle a flight comme pouvoir aussi.
Ouais, c'est ça. Mais dans le nôtre, elle vole pas. Fait qu'ils réussissent à l'enlever, ils le mettent dans une cage, puis là, ils sont comme, OK. Là, on n'est pas capable de le tuer, genre, parce qu'il est comme, sa peau est comme, premièrement, il est invisible. Fait que je le shoot-tu dans la tête, je le shoot-tu dans les jambes, je sais pas, il est invisible. Deuxièmement, sa peau est comme super résistante, tu peux pas le tirer, ça bounce back. Fait qu'ils savent pas quoi faire. Fait qu'à un moment donné, ils font juste comme, ah, j'ai une idée. Fait que là, ils l'endorment, ils l'électrocutent jusqu'à ce qu'il passe out, puis ils calissent la dynamite d'un fait. Ils sont juste comme.
Pas mal sûr que son intérieur est moins solide.
Ouais. Effectivement. Parenthèse le fun par rapport à ça. Le premier épisode de la saison 2, parce que dans la saison 1, il meurt explosé à cause de son trou de tête. Dans la saison 2, ils apprennent qu'il est mort, mais ils savent déjà qu'il est mort, parce qu'ils ont retrouvé des morceaux. Mais là, ils veulent y faire des funérailles. Mais genre, il est dans 1 million de morceaux. Fait que là, ils font juste comme, ah, il était invisible. On va juste
dire qu'il est mort invisible.
Fait que là, il y a juste un cercueil sur un stage, puis il n'y a rien dans le cercueil. Il y a juste rien dans le cercueil.
Ah oui, il est mort invisible, alors.
Ah yes, il est mort. Fait que là, il est là, puis il est juste comme... Puis il dit un au revoir, une dernière fois. Je sais pas, rien dans le cercueil. Qu'est-ce que t'as dit? Fait que c'est juste... Oh, ce show-là, là, il tue tellement, là.
Ah, que vous soyez fan de gore, que vous soyez fan d'action, de satire, vous voulez rire, être traumatisé dans la même scène, The Boys, c'est pour vous. Que vous l'ayez vu ou non, on vous souhaite à... Lire plus sur le lore, pour vrai, c'est insane. Les auteurs de ça ont pensé à beaucoup de choses. Ah, oh, c'est bon. On va essayer de trouver plus de matériel pour faire une part 2 un de ces jours.
Ouais, il va y avoir d'autres saisons, I guess.
Ben oui, j'espère qu'il va y avoir d'autres saisons. Ce sera bien que dans la prochaine saison, pour faire un breakdown, de parler des easter eggs puis des petites références qu'on trouve par-ci par-là.
Ce serait super à coche.
Dans le prochain épisode, si vous êtes intéressé, on va parler des Green Lantern et plus précisément de tout l'univers autour. Donc, soyez là. On va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup à parler et beaucoup à décrire. À la prochaine!